La question, donc, l'Occident et la question musulmane, bon, pourquoi pas, c'est ce que nous avions dit. J'étais un petit peu surpris de voir le sous-titre. La religion musulmane connaît en Occident une croissance sans précédent. Quel enjeu pour le monde occidental? Est-ce que le calendrier est devenu tout d'un coup le calendrier de l'Égypte? Est-ce que les fêtes musulmanes rythment la vie sociale? Est-ce que la charia a remplacé la loi faite par le Parlement français? Évidemment, non. Donc, la religion musulmane connaît en Occident une croissance sans précédent. Il faudrait voir ce qu'on entend par là. S'il y a effectivement près de 4,5 millions de personnes originaires de pays marqués par l'islam en France, dont la moitié environ est citoyen français, quelle est la connaissance et la pratique réelle de l'islam de ces personnes? Et quelle est leur capacité de répandre la pensée et les mœurs islamiques sur leurs concitoyens? Pour le moment, c'est pas très probant. S'agit-il des conversions? Depuis 1920, la mosquée de Paris a enregistré 6000 conversions. Alors, il y en a certainement d'autres, mais enfin, il faudrait voir ce qu'on veut dire par là. La pratique en particulier des jeunes musulmans est assez comparable à celle des jeunes catholiques. Et la transmission de la foi est aussi critique, sinon plus, près des enfants et des jeunes musulmans que des enfants et des jeunes juifs, que des enfants et des jeunes catholiques, que des enfants et des jeunes protestants, etc. etc. Donc, pas de panique. Effectivement, il y a une espèce de pollution de l'opinion, de peur diffuse de l'islam qui serait en train de gagner, n'est-ce pas, l'Occident, de le transformer de l'intérieur et comme une sorte de coucou civilisationnel, de venir pondre dans le nid occidental et de faire partir à l'extérieur de ce nid les œufs de l'Occident. Je crois que la réalité dément cette assertion. Au-delà des peurs largement irrationnelles entretenues par les médias et instrumentalisées par les partis politiques, tous pratiquement dans un sens ou dans l'autre, qu'en est-il de l'influence de la religion musulmane sur l'organisation sociale, sur la pensée et sur les mœurs de l'Occident? Je vous proposerai donc d'inverser le contenu de ces deux phrases. Non pas « la religion musulmane connaît en Occident une croissance sans précédent, quel enjeu pour le monde occidental », mais au contraire, la présence musulmane dans les pays occidentaux n'est-elle pas au contraire l'occasion de contacts de musulmans et de musulmanes de plus en plus nombreux avec la pensée, la vision du monde, les valeurs et les techniques élaborées par l'Occident? Et ce phénomène, loin d'islamiser l'Occident, ne provoque-t-il pas bien plutôt l'occidentalisation de l'islam? Comme le montre à l'évidence le rôle des idéaux de liberté et de dignité, de démocratie. Et si vous regardez Al Jazeera en particulier, vous avez dans le bandeau de l'écriture et dans la bouche des présentateurs télé, démocratia. Il n'y a pas de mot en arabe pour dire ça. Et donc ce qui est réclamé, c'est un concept d'origine occidentale qui vient du grec, même un signe. Voilà, donc les idéaux de liberté, de dignité, de démocratie, de lutte contre l'arbitraire, contre la corruption, le respect des droits de l'homme dans ce qu'on a appelé, avec peut-être un peu d'optimisme, le printemps arabe, dans les révolutions donc, qui marquent la Tunisie, et l'Égypte, et avec une fortune un peu moins pleine de succès, l'Algérie, la Syrie. Donc tout cela montre au contraire qu'il n'y a pas vraiment d'islamisation de l'Occident, mais par contre une occidentalisation de l'islam, avec en particulier ce cheval de Troie qui est la technique occidentale. Twitter, Facebook, Internet. Alors là aussi, sur Al Jazeera, vous avez Internet, on dit Facebook, on dit vidéo. Il y a d'autre part, il est vrai, un islam qui s'implante en France. Ces quelques millions de musulmans présents en France sont très divers entre eux. Il y a beaucoup de courants et souvent antagoniste, et des influences aussi intérieures. C'est un islam qui est en recherche, souvent tâtonnante, d'adaptation à une situation qu'il n'a jamais connue dans son histoire depuis 14 siècles. L'islam se trouve ailleurs que chez lui, sans être conquérant, sans être dominateur, au moins en position dominante, au moins par les armes ou par le commerce. Et donc il est un peu à la croisée des chemins, dans l'incertitude, dans l'inquiétude, comme le montre le terrorisme. Lorsque on n'a plus d'arguments sinon de poser des bombes, ça montre qu'on est dans un désarroi terrible. Voilà. Donc il y a évidemment des problèmes qui se posent, en particulier la transmission de la foi et de la pratique. Et il y a surtout ce que nous avons du mal à mesurer parce que nous sommes tombés dans la marmite quand nous étions petits, c'est le choc de la modernité. Les mœurs de l'Occident, sa vision du monde, tout autre que la vision du monde islamique, et la technique que cette vision du monde a engendrée, Internet, dont je parlais tout à l'heure, les armes, les outils, la mondialisation accélérée de la communication, tout cela est un choc pour les musulmans et pour les pays musulmans. Et un choc certainement beaucoup plus rude que pour d'autres religions, en particulier le judaïsme et le christianisme dans toutes ses déclinaisons, car ces religions, judaïsme et christianisme, ont été d'autant plus préparées à recevoir ces questions radicales qu'elles les ont culturellement produites. La modernité est un produit helléno-judéo-chrétien. Donc la modernité et la postmodernité sont les enfants de l'Occident. C'est la vision du monde judéo-chrétienne et c'est la sagesse grecque qui ont façonné ces valeurs occidentales et ce qu'elles ont produit en tant que civilisation et produit aussi en tant qu'artefact, c'est-à-dire toutes ces choses que nous avons fabriquées et qui changent copieusement notre vie. Laïcité, démocratie, liberté, droits de l'homme, citoyenneté, primat de la conscience ne sont pas nés tout directement du crâne de la Révolution française sans aucune préparation. C'est au contraire des produits d'une évolution qui trouve sa racine dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament et dans la pensée grecque. L'islam, lui, pour des raisons historiques, a développé d'autres perspectives. Et celles-là, donc les perspectives de modernité, de démocratie, lui tombent dessus avec la mondialisation, avec d'autant plus de violence, qui n'a pas participé à leur élaboration, à leur production. N'inversons donc pas les problématiques à cause de la peur et peut-être à cause de l'oubli de ces filiations culturelles et de nos propres sources. Il est impossible de traiter au moins sommairement un si vaste sujet en une heure. Alors, je vais essayer de rappeler quelques faits pour illustrer une rencontre fort ancienne. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'Islam et Occident se rencontrent. Et quitte à passer pour un rêveur ou pour un incurable optimiste, je persiste à croire que le pire n'est jamais sûr et que nos deux civilisations ne sont pas forcément condamnées à s'opposer violemment et de façon stérile jusqu'à la fin de l'histoire. Au contraire, dans sa longue histoire, l'islam a fait preuve de pluralité. Il n'y a pas un seul islam. Preuve de souplesse, preuve de certaines capacités d'adaptation, même si, évidemment, aujourd'hui, on entend surtout le discours des salafistes, un discours assourdissant, qui présente du livre sacré une vision complètement écrasée et stérilisée dans une lecture présentée comme irrémédiablement et inéluctablement fondamentaliste. Surtout, le contact des premiers siècles de l'islam avec les autres, c'est-à-dire surtout nos ancêtres, ont donné des fruits heureux. Et donc, dans une première partie, très rapidement, je voudrais vous donner quelques éléments, souvent très matériels, en particulier parce qu'ils se mangent, d'une rencontre heureuse, donc de fruits heureux de la rencontre entre l'islam et l'Occident. Dans un deuxième temps, car la lucidité, la bienveillance plutôt n'excluent pas la lucidité et le réalisme, il convient de nous rappeler que malgré ces fruits heureux de la rencontre, un lourd contentieux historique envenime nos relations avec les musulmans depuis les origines. Il nous faut revisiter ce passé en une sorte de psychanalyse de la mémoire collective qui est d'autant plus génératrice de mauvais contacts présents et de malentendus qu'elle reste largement inconsciente dans le non-dit et dans l'ignoré, tout en empoisonnant de fait les relations actuelles. Et puis dans une troisième partie qui devrait être la plus importante, j'essaierai de vous donner quelques clés pour comprendre précisément les grands points de divergence que chacun doit bien connaître et intégrer pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble sans illusion et avec la perspective de bâtir quelque chose de neuf. J'essaierai en particulier de définir ce que je crois être la source de nos grandes divergences pour que nos rencontres puissent ne pas en rester à ces constats, mais devenir véritablement un dialogue lorsque nous aurons dissipé une illusion que j'énoncerai de deux manières un petit peu à la Raymond Devos. Alors, approchez-vous, on décolle pour un vrai dialogue. Il ne faut pas laisser croire à l'autre qu'on croit ce qu'il croit qu'on croit dès lors qu'on ne croit pas ce qu'il croit qu'on croit. Ça a l'air rigolo, mais c'est très profond. C'est-à-dire que nous projetons sur l'autre les catégories de notre foi, alors qu'il a ses catégories propres. Alors, pour faire plus simple, il faut absolument, pour arriver au dialogue, nous mettre d'accord sur nos désaccords. Cette source, c'est du moins des divergences qu'il faut connaître pour pouvoir aller plus loin et régler un peu nos contentieux, c'est la conception. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut connaître un petit peu, même beaucoup si possible, l'origine des livres sacrés, de la conception. De l'origine du livre, Bible d'un côté, Coran de l'autre, découle un certain nombre de conséquences qui déterminent précisément nos visions du monde incompatibles, qui vont nous donner un sens de Dieu, surtout un sens de l'homme. Nous avons quelque part un Dieu qui n'est pas forcément tout à fait dissemblable, pour être très optimiste, mais nous n'avons certainement pas le même homme. Et en particulier la conception du rôle de l'homme dans la production du livre sacré. Alors, une fois qu'on aura énoncé ces divergences, ces incompatibilités, il ne va pas s'agir de discuter, parce qu'on ne juge pas du contenu d'une religion depuis le contenu d'une autre. Il faudrait avoir un moyen terme différent des deux pour pouvoir apprécier. Donc, que peut-on faire ? On peut essayer d'entrer dans la logique interne de chacune des deux visions du monde et montrer pourquoi chacune des deux visions est convaincue qu'elle a raison. Parce que c'est quand même le même objet qu'elle essaie de décrire. Donc, il est intéressant de typer deux logiques internes et, à partir de là, essayer que chacune des deux civilisations connaisse bien les ressorts internes de la conviction de l'autre. Et à partir de là, on va pouvoir dialoguer. Voilà. Donc, première partie rapide, un petit peu en vrac. La civilisation arabo-islamique nous a donné les abricots. D'ailleurs, il faudrait pas dire abricots parce que A, c'est l'article. C'est al-barkouk. Non, al-barkouk. Les Espagnols ont entendu albaricoque, les Italiens ont entendu albicocco, les Anglais, avec leur phonétique particulière, ont entendu apricot, et nous, au lieu d'entendre le bricot, dans notre ignorance de l'origine du mot, on a gardé un bout de l'article et on a rajouté un autre article, l'abricot. Et l'apostrophe qui est inutile puisque A, c'est la moitié de al. Les violettes de Toulouse, et qu'y a-t-il de plus toulousain que les violettes de Toulouse ? Eh bien, les violettes nous viennent d'Iran, et cela nous a été apporté par la civilisation arabo-islamique. Les aubergines, Bezinjan, Berenjena, là aussi l'albergine, donc c'est un mot d'origine arabo-islamique. Vous avez aussi des noms de lieux comme Gibraltar, qui est la montagne de Tarek, Jebel, Tarek. Alors, comme on ne sait plus ce que ça veut dire, on a gardé ce qui n'est pas trop significatif, j'ai belle montagne, ça va, mais c'est la montagne de Tarek. Et on a laissé tomber Ek. C'est devenu Gibraltar en espagnol et Gibraltar pour nous. Alors, un peu plus profondément, si quelques-uns d'entre vous peuvent porter des lunettes, et je m'aperçois que j'ai oublié les miennes, donc, pas intérêt à trop avoir besoin de l'écrit, c'est effectivement parce que la civilisation arabo-islamique a beaucoup développé l'optique. De même, la trigonométrie, vous savez, je n'ai jamais trop compris ça, les sinus, les cosinus, les tangentes, les cotangentes, les algorithmes. Vous me direz, mais l'algorithme, il n'y a pas plus grec que ça, rythmos. Mais les algorithmes ont été, c'est une série de chiffres, enfin, je ne vous en ai pas expliqué ce que c'est, qui ont été découverts par un monsieur qui habitait le Khwarizm. Le Khwarizm, qui est une région d'une des républiques du sud de l'ex-Union soviétique. Donc c'est monsieur Khwarizmi, et c'est devenu, comme on ne sait pas dire Khwar, on dit Ge. Alors, de façon un peu plus profonde, l'ogive gothique, donc nos merveilleux monuments gothiques, doivent beaucoup à l'ogive. L'ogive, c'est algib. C'est un motif architectural que les Arabes nous ont transmis depuis, là aussi, l'Iran. C'est une modification de l'Iwan. Alors, vous avez trois mosquées au Caire. Vous avez la mosquée de Mehemet Ali, qui est au-dessus de la citadelle. Et puis, avant, vous avez celle de Rifa'i et de Shafi'i, de l'imam Shafi'i. Et dans celle de l'imam Shafi'i, je crois, vous avez quatre magnifiques iwan, hein, qui sont les ancêtres de nos ogives gothiques, et que les croisés, entre autres choses, nous ont rapportés. Alors, je conclue, puisque notre pasteur propre est un dominicain, par la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin n'aurait pas pu faire son œuvre philosophique et théologique s'il n'avait pas disposé du travail de Ibn Rushd, c'est-à-dire Averroès, qui n'avait pas le texte grec original. Donc il y a eu quelques... Au passage de culturel, de la frontière culturelle, il y a toujours des petits problèmes. Mais enfin, c'est grâce à la pensée d'Aristote, redigérée et transmise par Averroès, en grande partie, que saint Thomas d'Aquin a pu faire sa somme théologique. Voilà, alors je ne vous parle pas de Rigel, d'Aldébaran, Altaïr. Rigel, c'est l'homme, Altaïr, c'est les oiseaux. Beaucoup, le zénith, le nadir, la chimie, alchimia, c'est la science du pays de Kem, aljabre, c'est la contrainte, donc 2 et 2, ça fait toujours 4, et voilà, il y a 2 plus B2, facteur A2 moins B2, je ne sais plus ce que ça fait, mais ça fait toujours la même chose, c'est ça le jabre, la contrainte. Voilà, donc, vous voyez, ce sont des choses un peu basiques et assez évoluées que nous devons à la rencontre. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas si méchants que ça et qu'ils peuvent produire ou du moins transmettre aux autres civilisations des choses tout à fait intéressantes. Alors, je ne vais pas parler des sorbets, puis il y a plein de personnalités tout à fait sympathiques. Il y a des poètes, il y a des saints, et il y a des gens généreux, il y a des gens très intelligents. Enfin, ils sont comme nous, quoi. Non, mais on a l'impression, vous savez, qu'on a affaire à des extraterrestres. Ils peuvent être, comme nous, grâce à Dieu, des terrestres extra. Voilà, bon, vous voyez, une partie sympathique... Non, applaudissez pas. Alors, c'est une première partie trop rapide, mais bon, voilà, quelques flashs pour illustrer quand même les points de contact un peu plus positifs. Parce que, alors, malgré tout, deuxième partie, depuis les origines, ça s'est très, 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 très mal passé. Nous considérons aujourd'hui le monde arabe de façon indistincte. On confond arabes et musulmans. Tous les musulmans ne sont pas arabes. L'élément arabe est largement minoritaire dans le monde islamique. La plupart des musulmans sont des Asiatiques ou des Africains. Et ceux que nous appelons des Arabes ne sont probablement pas plus arabes que vous et moi. Alors, commençons depuis les origines, donc l'Arabie saoudite. Alors, vous savez qu'elle n'est saoudite que depuis Ibn Saoud, donc le 19e siècle. L'Arabie, que veut dire arabe? Ça veut dire les errants, donc ça désigne des nomades. Ce sont des sémites, comme les Hébreux, comme les Éthiopiens, comme les Araméens, hein, qui peuplaient donc toute cette partie, depuis le littoral de la Méditerranée, donc jusqu'à l'île des Arabes, Jazirat al-Arab, d'où le nom d'Al-Jazira, qui veut dire l'île, nous appelons la péninsule arabique, et puis tout ça s'arrête en gros à l'Euphrate, où nous entrons chez nos cousins indo-européens, les Perses, sans les Iraniens. Les Égyptiens sont sémito-camitiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop depuis les origines, donc ils ont un petit chouïa de sémites quand même, mais ils ont aussi un petit bout d'Africains. Voilà, donc c'est un monde relativement circonscrit dans lequel l'élément arabe était largement méconnu et culturellement dépourvu de signification et d'influence et de rôle historique jusqu'à la prédication et la constitution à la fois d'un état, d'une religion et d'une civilisation par Mohammed, donc le prophète de l'islam, à partir du 7e siècle de notre ère. Donc ce sont des nouveaux venus sur le champ de l'histoire. Les origines sont très difficiles à discerner. En deux mots, enfin, on y reviendra à la question de l'origine du livre. Il y a la façon dont les musulmans conçoivent leur propre origine religieuse, c'est-à-dire la rectification de la religion de toujours, en particulier avec le personnage d'Adam. Adam qui est à la fois le premier homme et le premier prophète, et donc cet Adam a eu un certain nombre de successeurs religieux, parmi lesquels Ibrahim, et puis Moïse, David, Jésus, plein de monde, qui étaient porteurs d'un unique dogme, qui est le Tawhid, le dogme de l'unicité divine, et d'une charia, c'est-à-dire d'une mise en application des conséquences de cette foi monothéiste. Alors cette mise en application peut être diverse. Toutes ces mises en application de la foi viennent de Dieu et sont transmises par des prophètes selon le même schéma. Donc il y a une religion adamique qui est la religion, qui est la religion de la... Alors il ne faut pas dire nature, parce qu'il n'y a pas de nature en islam, tu me permets, mais enfin, la religion de l'évidence des choses, qui va être déclinée toujours avec donc la même croyance en un Dieu unique et manifestée donc dans sa façon de prier, dans sa façon de se marier, dans sa façon de vivre en société, de façon un petit peu différente selon que les prophètes transmettent une loi divine qui peut évoluer, mais qui correspond quand même au même dogme. Voilà, donc Abraham, qui est un peu le second modèle. Ensuite, donc Moïse avec les enfants d'Israël. Jésus, qui est aussi envoyé aux enfants d'Israël. Et tous ces transmetteurs, plus ou moins volontairement, falsifient ou les récepteurs vont transformer un petit peu ou beaucoup, de façon parfois assez grave, cet unique message. Et donc Mohammed va se présenter comme celui qui met les pendules religieuses à l'heure. Donc il vient non pas apporter une religion autre, il vient restaurer la pureté originelle de la religion d'Adam, qui est aussi celle d'Abraham, qui est aussi celle de David, qui est aussi celle de Moïse, qui est aussi celle de Jésus, qui est la religion. Et il apporte la charia, donc la façon de prier, de se marier, de vivre en société, la plus parfaite, parce que c'est la dernière descendue. Ce qui donne à l'islam donc le statut de version la plus parfaite de la religion, parce que c'est la dernière à être descendue, donc c'est la plus moderne. Et donc les musulmans ne supportent pas qu'on leur dise qu'ils ne sont pas à la pointe de la modernité, parce qu'ils sont la version la plus moderne de la religion. Et en même temps, c'est celle qui correspond le plus à l'original, qui se confond avec l'originel. Voilà, donc une conviction massive. Alors je vous donne déjà quelques ressorts de la conviction islamique d'être la forme la plus achevée et la plus conforme à l'original de la religion monothéiste. Et donc ils vont situer les autres monothéistes par rapport à ce modèle d'excellence qu'ils sont eux. Historiquement, alors il y a deux théories qui ne sont pas forcément incompatibles les unes avec l'une avec l'autre. La théorie d'une gnose, une gnose adamique, c'est-à-dire une spéculation donc sur cette figure d'Adam, d'une sorte de religion éternelle qui ne change pas, qui peut changer un petit peu dans sa manière d'être vécue, mais qui substantiellement est axée autour de l'unicité de Dieu. Deuxième façon de voir, plus historique, et qui est assez intéressante aussi, Mohammed est évidemment l'héritier d'une lignée un peu dérivée de la Bible. Donc Adam, comme vous savez, est un personnage de sagesse. Adam, c'est tous les messieurs, et Ève, c'est toutes les dames. C'est monsieur l'homme, monsieur le terreux, monsieur le terrien, et madame la vivante. Je veux dire Adam et Hayah. Donc, c'est pas quelqu'un. Alors, quand on dit ça aux musulmans, ils voient pas trop ce qu'on veut
dire.
Parce que ça ne correspond pas à leur vision de l'écriture. Comprenez la difficulté du dialogue. Il faut d'abord un gros effort d'information réciproque qui n'ait pas l'air d'être une attaque ou un mépris ou encore moins une arrogance ou une suffisance. Je veux dire, voilà, très humblement, voilà nous comment nous lisons nos textes. Et donc, la façon dont vos textes décrivent les nôtres, c'est non seulement pas ce que nous croyons, mais voilà, dans l'étude des textes et dans une sorte de détour scientifique, de spécification des personnages. Adam, c'est un personnage de sagesse. David, c'est un roi. Bon, Abraham est-il historique ou pas? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, peut-être bien oui, parce qu'il y a des tablettes de Marie du XVIIIe siècle qui portent des noms Abraham. Donc on savait qu'à cette époque, il y avait des gens qui s'appelaient comme ça. Mais l'Abraham biblique, est-ce qu'Abraham, normalement, Abraham est allé à la Mecque? Bon, Abraham, 18e, 17e siècle avant le Christ, migration dans le croissant fertile. Manque de peau, la Mecque n'est pas dans le croissant fertile. Donc un homme du 18e siècle ne peut pas avoir mis les pieds à la Mecque. Alors ça, c'est pas la Bible qui le dit. Alors voilà, si vous voulez, ça suppose d'entrer, hein, de passer d'une vision splendide et parfaitement convaincante d'un mythe adamique très satisfaisant et très unifiant à la réalité un peu rude du carbone 14, de l'archéologie, de l'histoire des migrations, de la variation de l'histoire de la variation du littoral de la Méditerranée que l'on peut faire d'autant mieux maintenant par satellite et par d'autres moyens. Voilà, et on n'est pas dans le même monde culturel. Vous voyez la difficulté du dialogue. Deuxième façon de voir les origines, c'est le judéo-nazaréisme. En gros, nous avons la religion des Hébreux jusqu'à l'exil à Babylone, donc 587-538. À partir de là commence donc plutôt le judaïsme. Puis nous avons la destruction du temple, Titus en 70. Donc il n'y a plus de culte du temple. À partir de là, il y a trois branches. Les juifs, pour qui Jésus n'est ni le Messie, ni Dieu. Il y a les chrétiens, pour qui Jésus est le Messie et est Dieu. Et puis il y a les judéo-nazaréens, que nous connaissons par ailleurs, en plus de ce que dit l'islam de lui-même. Les judéo-nazaréens, pour qui Jésus est le Messie, mais évidemment, il n'est pas Dieu. Et en très gros, donc, Mohammed serait, était-il prophète, est-il simplement un chef de guerre qui aurait plus tard, plusieurs décennies plus tard, été prophétisé par la légende sacrée. Toujours est-il que le Coran, comme d'autres courants de cette époque, dont entre les deux testaments, enfin après entre le deuxième et le cinquième siècle et le septième siècle, croit que Jésus est le Messie. Effectivement, le Coran appelle Jésus Messie, mais qui n'est pas Dieu. Donc ça, si vous voulez, voilà trois manières pour vous montrer la complexité du sujet, de percevoir les origines. La manière de la foi islamique telle qu'elle s'énonce dans son classicisme jusqu'à maintenant, donc la religion de toujours dans sa forme la plus moderne, ou bien de façon plus distanciée, à la manière de l'historien des religions, une gnose adamique, ou bien un héritier du judéo-nazaréen. Alors historiquement, donc, les choses se sont plutôt mal passé, puisque un an avant la mort du prophète de l'islam, donc en 631, il y a eu, d'abord elles se sont mal passées parce qu'il y avait déjà des chrétiens en Arabie, il y avait des évêques. L'islam présente l'Arabie comme passant massivement paganisme à l'islam, c'est pas vrai du tout. Il y avait des tas de chrétiens, en particulier les descendants des hérétiques des quatre premiers conciles. Donc il y avait dans l'Arabie, bien avant Mohammed, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, et voilà, tout ce monde a petit à petit été islamisé, souvent par la force. Donc déjà, à l'intérieur du noyau premier, les choses se sont mal passées. Et en particulier, juste après l'Hégire, l'Hijra, donc en 619, lorsque Mohammed quitte la Mecque pour aller fonder à Médine à la fois la religion musulmane et le premier État musulman, il va trouver trois tribus juives à Médine. Et les choses vont mal se passer. Il va en exiler une et il va décréter, comme l'avait fait Moïse en d'autres temps, la mort de tous les hommes d'une autre. Et les chrétiens arabes vont petit à petit être obligés de se convertir à l'islam ou de partir. Lorsque l'on va sortir de l'Arabie, donc vous voyez qu'il n'y a d'arabes et de musulmans au début que les 70 compagnons qui ont suivi Mohammed. Donc tout le reste, c'est l'empire byzantin chrétien. Donc ce que nous considérons peut-être, comme naturellement musulmans et islamiques depuis les origines, la Syrie, la Palestine, l'Irak, l'Égypte, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, comme évidemment naturellement musulmans depuis toujours, c'était l'Empire byzantin. Donc on sort vers le nord de l'Arabie et on tombe sur Damas. Alors Damas qui est une grande ville de l'Empire byzantin. On tombe sur Jérusalem. Alors Jérusalem, ça fait quand même, on est au 638, conquête de Jérusalem. Le roi David en a fait sa capitale, donc 1638 ans plus tôt. Donc c'est pas une terre vierge, c'est le pays de la Bible. Donc pour les juifs, ça commence à poser un sérieux problème. Parce que si vous lisez la Bible, vous avez plein de noms de lieux et plein d'événements qui se sont passés là, bien avant que les Arabes ne sortent d'Arabie, et bien avant que les Arabes n'aient été appelés Arabes. D'où l'épineux problème d'Israël. Et puis, Jérusalem, c'est quand même l'endroit où Jésus est mort et ressuscité, et même d'où il est monté au ciel, et même d'où il a envoyé le Saint-Esprit. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles Jérusalem est chère au cœur musulman, en particulier le voyage nocturne du prophète, avec quelques facéties de traduction ou de non-traduction. Je ne résiste pas au plaisir de vous le dire. Vous avez le début de la sourate 17. Donc, gloire à celui qui a transporté de nuit son prophète. Min al-masjid al-haram il al-masjid al-aqsa. Alors, bon, vous n'avez pas compris, mais vous avez entendu al-aqsa. Vous savez qu'à Jérusalem, il y a la mosquée al-aqsa. Et voilà, donc normalement, à Jérusalem, il y a la mosquée al-aqsa. Alors, manque de peau, la mosquée al-aqsa a été construite par un calife en 696. Or, Mohammed est mort en 632. Donc, il n'y avait pas de mosquée al-aqsa à Jérusalem. Donc, dire que Mohammed a été transporté min al-masjid al-haram il al-masjid al-aqsa, ça ne veut pas dire que le voyage nocturne du prophète il s'est fait à Jérusalem. Et certains commentateurs autorisés vous traduisent aqsa, non pas comme chouraki, qui essaie de garder le plus possible les mots arabes, c'est intéressant, mais enfin il faut avoir fait de l'arabe pour lire la traduction française du Coran par chouraki, pouvoir la goûter. Parce que la mosquée al-aqsa, ce n'est pas la mosquée al-aqsa, c'est la mosquée la plus éloignée. Parce que aqsa, c'est un superlatif. Et la mosquée la plus éloignée, c'est le ciel. Donc, le voyage nocturne de Mohammed, c'est vers le ciel. Donc Jérusalem, peut-être pas grand-chose à voir. Donc vous voyez, pour dire à quel point le contentieux repose sur des mythes, souvent. Alors, quand on a une pensée habituée depuis des siècles à analyser, à vérifier, à cause de la pensée grecque, à cause du rapport biblique au fait, on voit qu'il y a un problème. Quand depuis des siècles, on a une pensée très rigoureuse, mais qui repose sur des bases où on ne distingue pas le mythe, l'histoire, le commentaire, le midrash, le targoum, la halakha, la haggadah, etc., etc., on ne voit pas ce qu'on veut dire. Vous voyez la somme de connaissances culturelles qu'il faudrait avoir réciproquement pour pouvoir valablement dialoguer. Alors partons de l'autre côté. Oui, alors continuons à monter et on trouve ce qui est actuellement la Turquie. Faut-il que la Turquie entre dans l'Europe? Mais la Turquie, elle est Turquie depuis fort peu. Les premiers Turcs, les Seljoukides, sont arrivés là au 12e siècle, enfin un peu au 10e, mais surtout au 12e siècle. Et avant? Avant, c'est l'Empire byzantin. C'est le pays de Thalès, d'Anaxamène, d'Anaxagore, d'Anaximandre. C'est le pays d'origine de la culture grecque. C'est pour ça que les Grecs regardent les Turcs comme des envahisseurs qui leur ont piqué la maison du grand-père. C'est pas uniquement entre les religions, c'est aussi entre les civilisations. Et ça ravive toutes les luttes entre Alexandre le Grand et les Perses. On a dit que la conquête musulmane de l'Occident était la réponse à la conquête de l'Orient par Alexandre. Il n'est pas forcément faux. Bon, voilà, Byzance. Alors, Byzance, c'est quand même un des hauts lieux de la chrétienté. Bon, Sainte Sophie est maintenant musée après avoir été mosquée. Sainte Sophie, c'est une église dédiée à la sagesse de Dieu, au Christ, sagesse de Dieu. Dans la conscience chrétienne, c'est quand même un lieu qui n'est pas anodin. Qui doit-elle rentrer dans l'Europe? Redescendons. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Byzance. Parce que c'est Byzance, la Turquie. Depuis 325, même un peu avant, 323, l'inauguration de Sainte-Sophie par Alexandre, par Constantin le Grand, jusqu'en 1453, où Mehmed II a pris Constantinople. Et le mot Istanbul est un aveu d'hellénicité. Istanbul, c'est Eistenpoline, c'est du grec. On va vers la ville. Voilà, redescendons, si vous voulez. Bon, j'ai oublié au passage de mentionner en Syrie Antioche, qui est un des hauts lieux de la pensée chrétienne, avec Saint Jean Chrysostome, avec le début, enfin, un des lieux sources de la vie monastique, le lieu source de la doctrine sociale chrétienne, et donc la Syrie de Bachar al-Assad, c'est pas seulement un pays musulman, c'est aussi toutes ces sources-là. Redescendons et passons en Égypte, dont l'Égypte c'est d'abord le pays des pharaons et puis des coptes. C'est là où il y avait Alexandrie, le haut lieu de la culture hellénistique fondée par Alexandre le Grand, le lieu où on a traduit la Bible de l'hébreu au grec, le lieu d'élaboration des termes théologiques en grec à partir de l'hébreu qui nous ont permis de façonner notre doctrine. C'est le lieu aussi diversement d'origine de la vie monastique. C'est là où il y a eu Origène, Pantène et un certain nombre d'autres pères de l'Église. Les chrétiens sont restés majoritaires en Égypte jusqu'au XIVe siècle de notre ère. Dans l'Égypte, pays musulman, oui, mais il y a beaucoup de choses avant et encore aujourd'hui. Il y a toute une vie. L'actuel patriarche, bon, qui a une attitude que l'on peut comprendre par rapport au pouvoir, a multiplié par deux le nombre des évêchés coptes orthodoxes. Et il a rouvert des monastères qui étaient fermés, dont celui de Sohag, depuis 11 siècles. Voilà, donc, pays musulman, oui, mais... Alors, si nous continuons, nous trouvons le Maghreb avec Carthage, pays de Saint-Cyprien, et puis Saint-Augustin. Et il y avait 690 évêchés au moment de la conquête islamique dans le Maghreb. Le Maghreb, c'était l'Empire romain. La conquête arabe est arrivée là en 642. Et Rouen a été fondée en 642, puis en 672. Voilà. Donc, il faudrait ajouter à tout cela les croisades. Alors, c'est très intéressant de lire d'Amin Maalouf les croisades vues par les Arabes. C'est comme quand on va à Londres, on se demande pourquoi les Anglais ont donné à leur place les noms de défaites. Waterloo, Morne-Plaine. Quelle idée de donner le nom de Waterloo à une place. Mais ce qui est défaite pour les uns est victoire pour les autres. Voilà, donc, il y a, si vous voulez, ainsi un chassé-croisé. Bon, il y a l'Espagne musulmane avec la prise de Compostelle par Almanzor autour de l'an 1000, où on va prendre les cloches. La cathédrale de Compostelle sur le dos d'esclaves chrétiens pour les amener jusqu'à Cordoue. Et lorsque Isabelle la catholique va reconquérir Cordoue, elle va faire amener les mêmes cloches sur le dos d'esclaves musulmans jusqu'à Compostelle. Donc, il y a une certaine réciprocité dans le comportement. Donc les croisades, qui ont été certainement aussi une occasion de contact culturel. Bon, nous avons eu le damasquiné, nous avons reçu la mousseline, qui est du tissu de Mossoul. Bon, ça a été un lieu de contact, mais enfin, un lieu aussi d'opposition. Et puis la colonisation et la décolonisation, et actuellement les questions du terrorisme, Al-Qaïda. Voilà, donc, deuxième partie, effectivement, les contacts se sont plutôt mal passés, et il faut le savoir pour essayer de nous enlever nos complexes de supériorité ou d'infériorité. Alors, troisième partie, je vais quand même la commencer un petit peu. Nous avons affaire à deux civilisations donc, qui sont tout à fait remarquables, mais qui reposent sur des fondements qui sont incompatibles. Alors bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on en reste là ? Mais non, il faut connaître nos incompatibles, il faut être d'accord sur nos désaccords, même pour bien voir en quoi nous n'avons pas, c'est comme Bordeaux-Chenel, vous savez, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bon, c'est un peu ça. Alors d'où viennent ces grandes divergences ? Elles viennent des différences de conception de l'origine du livre. Alors là, il faudrait que je fasse un petit dessin. Alors, on va partir, si vous voulez bien, de la conception musulmane que je vous ai déjà décrite oralement. Ça fait un premier choc que le dessin passe mieux. Il y a le ciel. Dans le ciel, il y a Allah sur son trône. Pourquoi pas ? On parle du trône de Dieu. Bon, symbolique, pas symbolique, descriptif, pas descriptif. Et au pied du trône d'Allah, gardé par des gardiens purs, il y a al-Kitab, la mère du livre.
livre,
c'est-à-dire l'original céleste de toutes les écritures sacrées, qui est un livre auprès de Dieu, avec des questions annexes qui ont suscité beaucoup de débats à l'intérieur de la pensée musulmane pour savoir si ce livre était éternel ou pas. Parce que Dieu est éternel, d'accord. Mais si le livre est éternel, comme le livre n'est pas Dieu, ça ferait deux dieux. Alors ça, c'est pas possible. Donc, le livre est-il créé? Est-il incréé? Quelle est sa matière? Donc, question entre les mu'tazilites et les ash'arites, entre les rationalistes et les fidéistes, les partisans de la liberté de l'homme et ceux qui disent que l'homme n'a aucune liberté et que Dieu crée jusqu'aux actes humains pour avoir la maîtrise sur tout. Enfin, donc, c'est l'ouverture de beaucoup de controverses déjà. Bref, ce texte, cet original céleste va descendre sur les prophètes qui vont le transmettre selon le schéma suivant. Alors il y a quelques feuillets qui descendent peut-être sur Noé, mais ça, bon, il n'en reste pas grand-chose. Il va y avoir ensuite alors Taurat qui va donner dans la Torah, qui descend sur Moïse, Moussa. Les fils d'Israël qui reçoivent le message vont le falsifier. Ils vont vous parler de l'alliance, ils vont vous parler du temple, ils vont vous parler des promesses et ils vont vous parler du don de la terre, enfin l'essentiel du judaïsme. Tout ça, évidemment, ça ne correspond pas avec le dogme islamique où le peuple élu, c'est ceux qui vont suivre la parole de Mohammed. Mais enfin, il y a dans la charia juive qui est légitime, hein, la loi juive qui est légitime puisqu'elle a été donnée par Dieu. Elle est moins moderne que la loi musulmane puisqu'elle est bien antérieure, mais enfin, on a le droit d'être juif. Ensuite, donc, sur Daoud vont descendre les psaumes et puis sur Issa. Alors là aussi, il faudrait expliquer comment Yeshua va devenir Issa. Yeshua, Yahvé sauve ou il sauvera. On va avoir un déplacement du Aïn de la fin au début. Parce qu'en fait, Issa, c'est Ésaü. Alors pourquoi le Coran appelle-t-il Jésus Ésaü? Si ça vous intéresse, on l'expliquera. Mais en tout cas, en parlant de Issa, il veut bien désigner Jésus. Donc Issa reçoit Al-Injil, c'est-à-dire l'Évangile. Alors là, les chrétiens vont inventer que Jésus est Dieu. Il n'y en a qu'un. Jésus ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas avoir de fils. Puisqu'il n'a pas été engendré, il ne peut pas engendrer. Ça a l'air d'une logique absolue. Jésus n'est pas mort sur la croix. Un prophète ne peut pas échouer. Puisque Mohammed, lui, a réussi, tous les prophètes doivent avoir réussi. Alors, comme Mohammed a eu des problèmes dans sa prédication, il est normal que tous les prophètes aient eu des problèmes dans leur prédication. Donc, nous allons avoir une standardisation mohammadienne de tous les prophètes. Et donc, Adam est prophète, David est prophète, il n'y a pas les distinctions que nous faisons, enfin que fait la Bible entre les personnages de sagesse, les patriarches, les prophètes, les rois. Donc tout ça va être standardisé à partir de l'expérience de Mohammed. Ce qui est assez génial parce que c'est une simplification très pédagogique et très parlante. Mais voilà, on n'est pas dans le même monde là aussi. Vous voyez déjà que ce qui fait un élément de grande différence, c'est la raison. Une pensée qui reste assez, qui s'exprime principalement par le mythe et qui ne distingue pas, comme nous essayons de le faire, ce qui est du mythe, ce qui est de l'histoire, ce qui est de la sagesse, ce qui est de la poésie, etc. Alors, Dieu, qui commence à en avoir assez de voir ces messages bien transmis par les prophètes, mais mal reçus par les communautés, va envoyer sur Mohammed, donc, un dernier livre qui sera Coran, qui va reprendre tout ce que en gros, pas forcément la totalité, mais des éléments de vérité des livres antérieurs, et surtout rectifier ce que les communautés réceptrices ont pu falsifier par rapport au message qu'elles ont reçu, et la charia la plus parfaite. Alors, c'est assez positif parce qu'elle vient directement de Dieu. Mohammed n'est pas l'auteur du Coran pour la foi islamique. C'est Dieu qui est l'auteur du Coran, et Mohammed n'a pas fait de miracle, sauf d'avoir transmis avec exactitude le Coran. Alors il y a toute une prophétologie de Mohammed, hein, avec le rôle de l'ange Jibril, qui est le préposé aux transmissions, si vous voulez, entre donc l'original céleste et les prophètes, et qui fait descendre sur les prophètes un fragment approprié de l'original céleste. Et le miracle consiste à transmettre avec fidélité ce que Dieu seul a écrit. Donc ce n'est pas une œuvre humaine, donc il n'y a pas d'exégèse, il n'y a pas de source. Alors par rapport à ce modèle qui a l'air très satisfaisant, malheureusement ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. Parce que pour la conception chrétienne de l'origine de la Bible, et je pense pour beaucoup de croyants du judaïsme, mais il n'y a pas de livre dans le ciel. Le Dieu de la Bible n'écrit pas. Le Dieu de la Bible, il crée un homme à son image et à sa ressemblance, et surtout capable de porter sa parole. Donc la parole de Dieu ne sera pas directement produite par Dieu. La parole de Dieu ne va pas descendre du ciel, mais elle va émerger de l'expérience historique que le peuple d'Israël biblique va faire des passages de Dieu dans les étapes de son itinéraire. Donc on n'a pas du tout le même modèle. Alors, c'est là, si vous voulez, que nous avons un certain nombre d'éléments de comparaison qui ne sont pas religieux. On a l'étude des textes. On n'appelle pas Dieu de la même manière. On appelle Dieu Adonai, on appelle Dieu Elohim, on appelle Dieu Yahvé, il ne faut pas dire Yahvé, le tétragramme. Bon, ce n'est pas le même style. Les psaumes ne peuvent pas avoir un auteur unique parce qu'il y a trop de styles différents. Le Coran a un auteur unique. Même si les sourates sont plus ou moins longues, c'est le même style, en gros. Là, il y a 36 000, il y a plusieurs centaines d'auteurs, avec des reprises, avec une construction du texte qui passe par trois stades. En très gros, il y a d'abord l'événement qui donne lieu à une tradition orale qui est ensuite mise par écrit. Et si nous considérons, alors ça, n'importe qui peut le constater, c'est la science des textes, c'est la linguistique, c'est l'archéologie, c'est l'histoire avec les sources bibliques et extra-bibliques qui viennent confirmer ou contredire ou relativiser les informations données par la Bible, montrer comment il y a une interprétation croyante de l'événement. En fait, la Bible, c'est la mise par écrit d'une interprétation croyante d'un événement. Donc, on n'est pas du tout dans la conception d'un livre hiératique, éternel, incontestable, qui descend du ciel. Et là, on va trouver donc plein d'influences babyloniennes, on va trouver que le psaume 104 a un auteur qui s'appelle Akhenaton, on va trouver que le psaume 19 sur le soleil, c'est une hymne au dieu syrien Shemesh, qu'Israël a trouvé tellement bien qu'il a piqué l'hymne, et partout où il y a Shemesh, il met Yahvé à la place. Voilà, donc la Bible a aussi des auteurs non-croyants, israélites, estampillés. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même univers. Alors, à partir de... Alors, ça, c'est la vision, comment dire, linguistico-scientifico-archéologico-exégético... Et elle peut être aussi croyante, cette vision-là, autant que l'autre, en disant que dans chacune des étapes de l'élaboration du livre, il y a l'inspiration. Et vous voyez bien que le Dieu qui révèle n'a pas du tout la même posture que celle de la vision classique de l'islam, qui est d'avoir avec lui un texte éternel dont il est l'auteur et qu'il fait descendre sur les prophètes. Alors que là, il accompagne l'histoire. Et du coup, l'histoire va être le lieu, va être l'instrument, va être le lieu de la réalité et de la réalisation de la révélation. Alors que là, il n'y a pas d'histoire. Il y a un âge d'or, qui est celui de Mohammed et ses successeurs, dont les quatre premiers califes, qui est l'idéal historique absolu. Et donc, de cet idéal, tout ce que l'on peut faire, c'est de se rapprocher. Donc, voilà. Le peuple d'Israël, je termine par là, excusez-moi, je déborde un peu, mais c'est quand même essentiel. On le reprendra parce que c'est quand même un peu compliqué. Israël va regarder son histoire et il va discerner quelques grands passages de Dieu. D'abord, il va... Tout ça part du retour de l'exil. En 587, Jérusalem est prise et 49 ans plus tard, c'est pas un hasard, 7 fois 7... Pour tous les sabbats qu'il n'avait pas fait, il va faire 49 ans de recyclage à Babylone, où il va revenir avec une angélologie, avec surtout un discours sur la création du monde qu'il n'avait pas. Voilà, donc en 538, c'est le retour de l'exil. Il va se remémorer qu'en 1250, Dieu l'avait déjà libéré de l'Égypte, donc tout ça va être revu dans la mémoire croyante. Et en 538, comme Israël renaît, il va produire un récit de création, un récit sur les origines. Et il va tirer un trait entre ces points. Alors ici, là, en l'an 1000, il y a David, et puis ici, il y a l'ancêtre Abraham. Et alors on va produire des textes à partir des traditions orales pour faire une vaste fresque qui va dessiner une flèche. Alors on n'est plus, vous savez, ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours, le temps va ramener l'ordre des anciens jours. Les cycles de l'hindouisme, les cycles auxquels nous sommes habitués, c'était mieux quand on était petit. On avait un peu plus de cheveux, le chocolat avait meilleur goût, les jeudis étaient bien mieux que les mercredis de maintenant, les étés n'étaient pas pourris, les hivers étaient rigoureux, c'est pas vrai. Tout a toujours été aussi bouleversé. Mais enfin, nous avons une reconstitution avec une prime à la nostalgie. Eh bien, si jamais le croyant israélite a la tentation de rentrer dans le paradis heureusement perdu, il y a le saraf, avec le glaive de feu, qui lui interdit de rentrer dans le sein maternel. Il lui dit, mon petit Adam et ma petite Ève, tu ne vas pas rentrer bien cool dans le sein maternel du paradis. Tu vas faire l'histoire avec ton Dieu. Parce que le mieux, il n'est pas en arrière. Le mieux, il n'est pas à l'origine. L'origine, c'est l'embryon. C'est sympa l'embryon, mais ce n'est pas l'embryon qui nous intéresse, c'est ce que l'embryon va devenir. Donc l'idéal historique, il n'est pas dans l'histoire. Il va s'élaborer et le mieux, il est en avant. Il n'y a pas des cycles, il n'y a pas d'éternel retour. Il n'y a que l'éternel qui est éternel, il n'y a pas de retour. Le retour, ce n'est pas humain, ce n'est pas divin, ce n'est pas biblique, ce n'est pas yavique. L'idéal, c'est en avant. Aujourd'hui, plus qu'hier et bien moins que demain. Alors même si on n'est plus croyant, on a fini par l'intégrer et c'est l'une des clés de l'Occident. En particulier dans son prurite technique, où l'on va faire des machines à laver avec un tambour d'abord en cuivre, et puis après en métal un peu plus léger, et puis en plastique, et puis qui ne fait pas du tout de bruit, et puis on va inventer l'ordinateur, et qui va au début occuper deux ou trois pièces comme ça. Les premiers ordinateurs du Pentagone, c'est un immeuble, et puis maintenant on a les iPhones. Vous n'avez pas d'iPhone. Alors, vous n'avez pas d'iPhone. Voilà. Parce qu'on n'est jamais content puisque le mieux est en avant. Et avec ça, on va être assis sur une notion fondamentale qui est la notion de progrès. Or, dans cette conception de l'histoire, ou non-conception de l'histoire, le progrès, ce n'est pas bien. Puisque l'idéal a déjà été réalisé par Mohamed et ses premiers successeurs. Donc, si vous voulez, nous ne nous rencontrons pas parce qu'on va par là. Ou par là. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà, alors, vous voyez quelques grands points à partir de la conception de l'origine du livre. Alors évidemment, il va y avoir des conséquences pour la technique, pour le rapport à l'objet et surtout pour la science, avec aussi la notion de personne, mais ça on y reviendra la prochaine fois. Mmh.